Aujourd'hui à Culture d'Empathie, Renaud Faneuf, thérapeute, citoyen engagé, innovateur social. Bienvenue à Radio Culture d'Empathie. Moi, c'est Colin Perrault. J'offre ce podcast pour contribuer à la création d'une culture d'empathie. Dans ce podcast, je vais parler à toutes sortes de personnes, à des gens d'un peu partout. Mais ce que ces gens ont en commun, c'est que ce sont des gens qui m'ont touché, qui m'ont inspiré dans ma vie, dans la création d'une culture d'empathie, une culture de connexion, une culture de non-violence, une culture créative où toute forme de vie est considérée également. On est à un moment, en ce moment, dans notre civilisation où on se pose beaucoup de questions sur l'égalité entre les personnes, la justice sociale, puis aussi par rapport au changement climatique. Dans ce podcast, je veux qu'on s'inspire ensemble, qu'on se transmette des expériences, des connaissances. Et je vous invite à partager ces podcasts autour de vous. Je vous invite à vous inscrire à ma page culturedempathie.org. Vous pouvez aussi écrire un courriel à culturedempathie@gmail.com. Merci d'être là. Bonne écoute.
Prendre soin de toi, prendre soin de soi, prendre soin de moi, prendre soin de nous, prendre soin de vous. Le temps est venu de se lever. Le temps est venu de partager. Le temps est venu. Le temps est venu de s'élever. Le temps est venu, est venu de s'élever. So everybody say, so man got a weakness, oh we gotta stand up and arise. Everybody say,
merci à tous les magnifiques artistes aujourd'hui qui ont contribué de la musique. Green Étoile, TPM Music, Carl Munity et Marianne Aya Omar. Aujourd'hui, Renaud et moi, on a parlé de santé globale. Vraiment, qu'est-ce que c'est la santé aujourd'hui dans notre société? On a aussi parlé de sa réaction en temps de COVID, où il est venu en aide à 4 personnes différentes qui étaient en crise. On a aussi parlé d'éthique en lien avec la COVID et la vaccination. Salut Renaud!
Hey, salut Colin!
Je vais te présenter en comme quelques mots. Je vais essayer de ne pas y aller trop long. Tu es quelqu'un que quand j'ai commencé le podcast Culture d'empathie, tout de suite, une des personnes que je me suis dit, j'ai envie de parler à Renaud, j'ai envie que Renaud puisse partager ton parcours, ton expérience, ta vision de la vie. Mm. Moi, ça m'inspire personnellement, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui s'inspirent à Montréal où tu habites, mais aussi un peu partout au Québec. Je sais que tu as des liens beaucoup avec les États-Unis, avec le Mexique. Mm-hmm. Puis je vais dire juste quelques mots qui viennent un peu en pensant à toi. Tu es massothérapeute. Personne qui a beaucoup de liens dans ta communauté à Montréal et ailleurs, comme je l'ai dit. Le mot alimentation saine me vient, agriculture me vient, voyageur t'amène aussi beaucoup une sagesse, mais aussi beaucoup de rire, de légèreté. Je te laisse prendre la parole aussi pour te présenter un peu, Renaud.
Merci de ton accueil, puis merci de ton invitation d'abord. Puis je t'écoutais me présenter, puis je me disais, ben oui, je suis un être humain. J'ai aujourd'hui 38 ans. On me dit que j'ai l'air plus jeune que... Mais je commence à porter mes années. Puis, en même temps, justement, tu as nommé le mot de l'empathie. Puis, effectivement, je suis thérapeute psychocorporel. Je travaille en massothérapie. Je travaille beaucoup avec le contact humain, bien sûr, mais le contact physique avec les mains, en touchant les corps des gens... Puis c'est certain que, surtout dans le contexte de la pandémie, justement, là, depuis un an, c'est certain que moi-même, ça m'a fait traverser aussi beaucoup de questionnements par rapport à l'importance des choses les plus importantes pour moi, comme le contact humain. Je suis un expert des regroupements. Oui, interdiction de regroupement au Québec. Puis peut-être j'ai une autre pensée que j'ai eue simplement quand tu me présentais, en fait, j'ai pensé tout de suite à ma grand-mère. Je pense que quand tu parlais effectivement de l'empathie, dans le sens, l'empathie, c'est comme une posture, une manière d'être, une manière d'écouter, une manière d'être avec les autres en relation. Puis c'est sûr que pour moi, je sens que ça me vient beaucoup de ma mère, qui a beaucoup reçu ça de sa mère comme un cadeau dans la vie. Puis ben justement, ça me faisait penser à toi aussi, dans le sens les vases communicants qu'on a ensemble, disons notre grand désir de d'inclusion sociale dans n'importe quel processus, puis en même temps de connexion, on pourrait dire dans une certaine forme d'expression non violente, ou en tout cas dans une considération, considérer les autres tels qu'ils sont, tels qu'elles sont. Avancer avec qui nous sommes, pas juste avec nos idées de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, puis nos croyances, disons.
Vraiment revenir plus à la rencontre de ce qu'on est authentiquement à l'intérieur, enlever un peu toutes les couches qu'on se met, que la société peut nous mettre, puis parfois à lesquelles on croit, puis qui fait finalement qu'on est plus lourd, c'est plus dur de rentrer en relation avec les autres. Je pense qu'une grosse partie de ton travail de thérapeute du toucher, je dirais ça de même, tu es une des personnes que je connais qui touche le plus les gens avec lesquels tu es. Mais une grosse partie de ton toucher, c'est d'enlever des couches. C'est d'aider les gens à rentrer à l'intérieur, de sentir la présence.
Tout à fait, puis justement, ben, de pratiquer un toucher qui sécurise, qui fait du bien, qui est réconfortable. Sûrement que je dois dire tout de même que dans ma vie, j'ai appris. J'ai toujours été quelqu'un de très kinesthésique, mais j'ai déjà été plus réservé. J'ai déjà eu plus peur de toucher les gens, plus peur d'être jugé, plus peur de toutes sortes de choses, non? Puis je nomme ça parce que même quand c'est naturel, le toucher, même quand c'est vraiment essentiel pour nous, même avant la COVID, c'était pas si facile que ça de se toucher, d'avoir des relations amicales, on va dire. C'est un défi pour beaucoup de gens. Puis avec la COVID, ben c'est peut-être devenu un peu extrême, extrêmement difficile pour beaucoup de monde, j'ai l'impression.
Pour les massothérapeutes en général au Québec, un peu partout dans le monde, ça n'a pas été une période facile. Il y a eu une période pendant laquelle vous ne pouviez même pas travailler, faire votre travail. Mais toi, tu as vraiment transformé ton travail. Tu as vraiment, je pense, tu as transformé, puis tu as ouvert des nouvelles possibilités de rencontre avec les gens pour offrir du soutien.
Donc, on a été considérés comme non essentiels au début, comme les personnes qui travaillent dans les groupes communautaires en santé mentale, imagine, non? Qui ont été fermées. Donc, c'est sûr que le gouvernement a été surpris, hein? Il a quand même été surpris par tout ça. Moi, ça a été toute une adaptation, effectivement, d'être pris dans ma maison. En fait, je me suis plus retourné vers ma communauté. Puis vers mon côté volontaire, mon côté action bénévole. J'étais seul, je vivais seul dans un 4,5 à Montréal quand la COVID a commencé. Tout de suite, je me suis dit, non, moi, je ne vais pas vivre ça seul. Tout de suite, dans la première semaine, je me suis dit, ça va peut-être durer un an, ça va peut-être durer 10 ans. Je ne sais pas dans quoi on est embarqué, mais ce n'est pas quelque chose qui va se régler en un mois. Ça, c'est sûr, sûr, sûr. Puis finalement, ben en moins de 2 semaines, j'ai un ami qui est revenu du Mexique. J'ai été celui qui l'a accueilli. Il est arrivé avec les derniers avions du Mexique. Puis finalement, 2 semaines après, j'ai accueilli si je peux dire, un réfugié pandémique, un homme, un Népalais qui était pris ici, puis qui avait plus d'argent, il était supposé venir ici pendant 10 jours, Krishna au Canada, puis finalement il a fait un voyage de 3 mois. Donc après un mois et quelques, il s'est ramassé sans argent. Puis moi j'ai eu simplement la chance de savoir qu'il avait besoin d'aide. Puis ça nous a permis de vivre les 3 premiers mois à trois dans un 4,5. Ce qui a complètement changé mon expérience de la COVID. Donc.
J'aimerais ça t'entendre sur ton expérience de comment tu as vécu finalement ce temps-là avec ces personnes-là, mais aussi que tu nous partages un peu de ton expérience de l'isolation que les gens ont vécu pendant la pandémie.
Il y avait, en fait, j'ai accueilli chez moi un ami qui était dans un moment de psychose, puis même finalement une deuxième personne, juste après ma quarantaine stricte, qui est venue, que j'ai accueilli aussi. J'ai eu la chance, je peux dire, d'accueillir puis d'être présent pour 2 amis qui vont quand même mieux maintenant. Puis justement, en fait, je veux dire, pour moi, c'était assez évident, moi, mais. Dans le fond, c'est 2 amis qui avaient vécu des difficultés personnelles, mais ce qui les a vraiment mis comme au bout du rouleau, c'est d'être tout seul, puis de manquer de contact humain, en fait. de manquer de toucher, de manquer, je dirais même d'amour, dans un amour d'amour de lien humain, d'amitié.
Ouais.
Puis, puis là, bon, j'ai pas de statistiques, je m'intéresse pas tant que ça aux statistiques, mais on a vu les statistiques par rapport à la violence conjugale, par rapport au suicide, par rapport à... On sait que la santé mentale, présentement, elle est fragile pour beaucoup de gens. Puis même dans l'époque pré-COVID, ça allait pas bien à tous les niveaux. Disons, là, tout le monde a des souffrances, tout le monde a des défis personnels au niveau émotionnel, au niveau mental. Donc, moi-même, ça m'a... En tout cas, je suis passé par plusieurs étapes, disons, vraiment beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Puis, mais maintenant, après une année, là, je peux dire que je me sens vraiment plus disponible pour être au meilleur de moi-même. Puis, permettre de donner le meilleur de moi-même aux gens autour de moi, tu sais. Mais ça m'a pris beaucoup de recul, de réflexion, d'adaptation pour arriver là aujourd'hui.
Je pense que tu avais déjà des outils pour t'aider à passer au travers, parce que la réalité, c'est qu'avec tout ce qui est arrivé dans la dernière année, les mesures sanitaires, pas juste ça, mais aussi la peur des gens, il y a eu beaucoup de moments où on se posait des questions, puis on pouvait facilement se retrancher dans notre petite bulle puis avoir peur. On pouvait facilement avoir peur de l'autre, avoir peur de contaminer l'autre, juger les autres, être fâché contre les autres qui ne font pas nécessairement ce qu'on pense qu'ils devraient faire. Il y a été à quelque part, je pense, une atmosphère assez toxique. Je ne suis pas sûr qu'on voit en ce moment à quel point ça a été un environnement toxique pour les gens. Mm-hmm. On voyait aussi beaucoup d'aide des organismes communautaires, même tu sais, de la santé et services sociaux du Québec, qui, tant bien que mal, essayaient de venir aider les gens qui étaient en situation de crise.
Mm-hmm.
Et la réalité, c'est que c'est drôle parce que d'un côté, j'ai l'impression qu'on essayait d'amener de l'aide à des gens qui vivaient du stress. Je crois que c'est beaucoup la construction de notre société qui fait que tout à coup, le COVID arrive, puis il y a plein de choses qui se plantent. Comme par exemple, notre façon dans notre société de voir c'est quoi la santé. Est-ce que la santé, c'est une santé globale où on est en prévention, où on croit que la santé, c'est lié à tout ce qui est autour de nous, l'air, l'eau, l'alimentation qu'on a, la qualité des sols d'où vient notre alimentation. Est-ce que c'est par rapport à la quantité de verdure qu'on voit dans une journée quand on marche en ville? Est-ce que c'est par rapport à la convivialité de nos villes aussi puis de nos campagnes? Je me demande s'il y a assez d'importance qui est mise sur cet aspect-là de santé globale dans notre société versus combattre l'ennemi. Puis combattre l'ennemi, finalement, ça vient, c'est pas juste combattre le COVID. Tu sais, combattre le COVID ou combattre tel pays ou combattre telle religion, pour moi, ça revient tout au même. C'est se séparer puis c'est s'isoler de quelque chose d'autre qui existe sur Terre. Puis finalement, toute notre société, puis tout le monde a fait son possible dans tout ça. Tu sais, c'est culture d'empathie, là, c'est pas commencer à trouver c'est qui le coupable. Ça, c'est un jeu qui existe depuis trop longtemps sur Terre. Il ne marche pas. Okay? Ça, c'est une chose que je suis prêt à dire, très l'affirmer. Il marche, ça ne marche pas, cette façon-là de pointer vers l'autre.
Mm-hmm.
Et c'est correct quand même de nommer c'est quoi les dynamiques de société, les dynamiques sociales qui divisent les gens. Puis qui donnent que les gens sont dans la séparation. C'est toi ou c'est moi. C'est le virus ou c'est moi. C'est l'agriculture, c'est je vais avoir cet emploi-là ou c'est toi qui vas l'avoir. De voir les choses en opposition, finalement.
Mm-hmm.
J'ai l'impression que c'est beaucoup ça qu'on a vu, puis c'est beaucoup à ça qu'on a eu à répondre avec la COVID, mais en même temps, c'est beaucoup plus grand que juste le COVID. C'est un peu notre construction de notre société.
Un des gestes pour, disons, pour créer de la connexion, que j'ai fait à un moment donné dans ma vie que je me suis dit, mais oui, pourquoi est-ce que je fais pas ça? Eh bien, c'est de commencer à dire bonjour aux gens dans la rue. Juste de commencer à dire bonjour aux gens que je connais pas. Puis à ce moment-là, je trouvais presque ça drôle, parce que je me disais, ah oui, hein, c'est vrai, hein. On ne se dit pas nécessairement bonjour. Et en même temps, je trouvais qu'il y avait quelque chose de curieux là-dedans, dans le fait de ne pas se dire bonjour. Et je savais, en tant que Montréalais, puis Montréalais d'origine depuis plusieurs générations, mais je savais que dans le temps, ce n'était pas comme ça. Il y a un an, tout le monde se disait bonjour à Montréal et les gens s'imaginaient que c'était comme un grand village. C'était ça la réalité à Montréal il y a 100 ans. Donc, ça n'a pas toujours été comme aujourd'hui, là. Puis l'individualisme triomphant, si je peux dire, ou le genre d'américanisme aussi qu'on peut-être dans lequel on s'est développé au niveau culturel ici au Québec, mais ça n'a pas toujours été comme ça, c'est pas une fatalité. Puis on peut se dire bonjour, on peut renverser les choses. Dire des bonjours, là, c'est combien de gens j'ai vu me sourire, non? Peut-être que c'est parce que je leur faisais un bonjour en les souriant, mais je me suis rendu compte aussi que beaucoup de gens auxquels je me permettais de leur dire bonjour, que je ne leur ai pas dit bonjour nécessairement dans la vie, même des gens qui avaient l'air bêtes, ils n'avaient pas l'air, en premier regard, là, oh, je n'aurais pas dit bonjour peut-être. Pourtant, ça venait de mon cœur parce que j'avais placé cette intention-là en moi, puis donc ça venait du cœur. Puis une personne là, qui avait l'air bête, finalement, me souriait. C'est ça, c'est incroyable à quel point, en un instant, notre perception peut changer. Ma ouais. propre perception des autres mm-hmm. et la perception de moi, probablement, que l'autre a de moi.
C'est un geste super simple et en même temps, c'est un défi de sortir de notre propre bulle, de ne pas avoir peur de ce que les autres vont penser.
Mm-hmm.
Puis, je vais le dire, malheureusement, en ce moment, j'ai l'impression que dire bonjour avec le masque dans le visage, c'est encore plus difficile. C'est malheureux, mais il y a un filtre un peu où il y a une distance un peu plus grande qui s'est créée entre les gens. Que ce soit dans la rue, je crois beaucoup, quand on fait notre épicerie aussi, j'ai remarqué, il y a une énergie plus lourde maintenant dans les endroits publics.
Mm-hmm.
Ça revient au thème qu'on parlait tantôt de l'isolation. Les gens se mm-hmm. sentent seuls, les gens ont peur des autres. On se sent séparés les uns des autres. Puis aussi, malheureusement, je crois que ça se traduit aussi par une isolation de notre lien à la nature même. T'sais, c'est drôle parce que d'un côté, les gens disent que les gens sont plus dehors depuis le début de la pandémie, ils ont plus besoin d'être dehors. Je ne sais pas, t'sais, je dis malheureusement, mais dans un sens, peut-être que c'est en train de créer un rapprochement avec un autre côté. T'sais, on se sent moins à l'aise avec les humains, ça fait qu'on s'en va vers un autre côté de la vie, qui est la nature.
Mmh. Ouais. On est dans une ère dans laquelle, oui, il y a comme une émergence de possibles dérives totalitaires, comme de superstructures qui veulent imposer leur contrôle. Mais en même temps, on est surtout dans l'ère de l'autocontrôle. Mm-hmm. On apprend aux gens à se contrôler eux-mêmes. Puis ça, c'est le meilleur mode de contrôle pour un groupe, pour une autorité en place, disons, dans le sens que c'est le mode de gestion le plus efficace. Quand on n'a pas besoin de dépenser d'énergie parce que les gens utilisent leur propre énergie pour se contrôler eux-mêmes, non? Puis, à quelque part, peut-être qu'on pourrait même trouver du positif là-dedans. Je ne sais pas, si on cherche. Dans le sens que si les gens se responsabilisent eux-mêmes, sont en plein contrôle d'eux-mêmes, peut-être que dans un certain sens, dans une théorie individualiste, on pourrait voir du bien là-dedans. Mais moi, ce qui me frappe, en fait, c'est que dès le début, on a choisi de vivre la crise. Puis là, je dis « on », mais « on » exclut la personne qui parle dans ce cas-ci. Le gouvernement du Québec a choisi une approche de répression. Depuis le début, moi, depuis qu'on m'a dit que, je veux dire qu'on a évacué la liberté de conscience, parce que c'est ce qu'on a fait depuis le début, puis qu'on a tout focusé, c'est comme si on avait tout mis nos jetons sur, bon, on va apprendre aux gens à se laver les mains, puis ensuite on va apprendre aux gens c'est quoi les choses de base qu'on doit faire pour vaincre l'ennemi. Ça, ça a duré pendant 1, 2 mois, 3 mois. Et finalement, ça fait depuis 1 an qu'on vit dans une forme de contrôle, de répression. Puis l'éducation, au début, là, j'ai vu passer des vidéos comment se laver les mains, les enfants. Comment est-ce qu'on se lave les mains? Mais on dirait que ce premier réflexe d'éducation qu'on a peut-être eu au début dans certains milieux, on dirait que ça a tout été mis de côté. Tout à l'heure, tu parlais au niveau de la santé globale, de la logique de prévention, par exemple. Moi, c'est sûr, en tant que travailleur de la santé, massothérapeute, thérapeute psychocorporel, je me place du côté de la santé globale, holistique, la santé naturelle, la prévention. C'est sûr que moi, c'est de ce côté-là que je suis. J'ai travaillé avec les enfants pendant 5-6 ans. Mais aussi avec les enfants, je travaillais à lutter contre le décrochage scolaire, la motivation, à aider les jeunes à être motivés. Leur diplôme, leur cote R, leurs résultats, ça m'importe peu. Ce qui m'importait à moi, c'est que les jeunes trouvent une certaine estime de soi, une motivation, puis le désir d'aller de l'avant, qu'il y ait de l'élan, qu'il y ait « OK, on est peut-être défavorisé ou on est dans une situation difficile, mais on va de l'avant, on est motivé. » Ça, ça m'intéresse, de trouver la motivation dans les gens. Pour ça, on a besoin de stimulation. Moi, depuis le début de la crise, là, quand M. Legault il nous a dit « Restez à la maison, on va sauver des vies », qui nous a répété ça sans cesse, là. Je m'excuse, mais ça n'a pas eu un effet motivateur sur moi. Même que je pense que la logique de répression, moi, m'a amené à me refermer sur moi-même, en fait. Ça m'a amené sur moi-même, là, je suis un thérapeute, je suis une personne majeure, j'ai de l'expérience. Je n'ai pas donné mon maximum de potentiel. J'ai appelé pour m'inscrire à « Je contribue », perdu dans mal. En fait, deuxième confinement, je recule en arrière. Deuxième confinement, je me suis dit non, non. Quand le deuxième confinement est revenu, là, la deuxième vague, je me suis dit non, je veux pas vivre ça comme la première. Je vais pas vivre ça comme la première, c'est pas vrai. Je vais pas comme rester chez nous. Mais ça a été difficile pour moi de faire ma publicité, de dire oui, 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 la massothérapie, on est ouvert. Moi, je connais de l'intérieur. C'est quoi nos normes? C'est quoi les normes sanitaires en massothérapie durant la pandémie? Mais je les connais. Qu'est-ce qui est différent d'avant la pandémie? Porter le masque. Un petit peu plus que ça. Porter des lunettes de protection. Avant la pandémie, on se lavait les mains, on désinfectait nos tables. Peut-être que les gens n'étaient pas aussi assidus aujourd'hui, mais on avait déjà une idée de l'hygiène. On connaissait c'était quoi la grippe. On savait que quand quelqu'un a une grippe, on ne lui donne pas un massage. On appliquait déjà des principes. Les choses n'ont pas tellement changé. Puis ça me révolte, dans un sens, ça m'a révolté depuis le début, que le gouvernement nous dise on n'a pas le droit de se toucher. Parce que, premièrement, c'est faux, on a le droit de se toucher. Ensuite, c'est comme ça, on nous impose, on nous dit on ne doit pas, on ne doit pas, on ne doit pas. C'est l'ignorance qui parle, c'est la peur qui parle. On ne sait pas comment. Moi, je sais comment toucher quelqu'un. On se lave les mains, on se lave les mains jusqu'au coude, on porte un masque, puis on peut se toucher. Puis après s'être touché, on se relave les mains. C'est pas tellement compliqué. Comment ça est-ce qu'on n'a pas été capable d'éduquer la population du Québec à se toucher? Bien, c'est parce qu'on croit, on considère un peu les citoyens, les citoyennes, qu'ils soient des adultes, des enfants, on les considère comme des enfants qui ne seraient pas capables d'apprendre. Moi, c'est ça que j'ai reçu comme message, d'une certaine manière. Puis ça m'a révolté parce que j'ai l'impression que c'est normal, on ne voyait pas tous les effets secondaires dévastateurs des mesures qu'on a prises au tout début. Puis ce qu'on voyait, c'est surtout la dévastation, justement, dans les centres de personnes âgées. C'est grave ce qui est arrivé, c'est extrêmement grave. On a concentré toute notre attention sur ce qui se passait là, puis ça l'a pris, on dirait, 1 an avant qu'on réalise toutes les répercussions de cette logique-là de répression. En tout cas, aujourd'hui, j'espère de tout mon cœur que, puis en même temps, on dirait que j'y crois pas vraiment, mais j'aimerais ça voir la société civile, en fait, parce que le gouvernement, on dirait que j'ai jamais trop eu confiance dans ce gouvernement-là. Jamais. Mais là, je veux dire, c'est moins que j'ai plus confiance dans ce gouvernement-là. J'ai l'impression qu'on avance dans n'importe quelle direction, là.
De plus en plus, on entend une voix qui s'élève, puis heureusement, beaucoup auprès des jeunes qui disent « on veut de l'eau propre, on veut de l'air propre, on veut un avenir, on veut pouvoir se nourrir sans manger de pesticides, puis s'empoisonner, on veut qu'il y ait moins de cancer. » Tu sais, tu vas dans une école, les jeunes parlent beaucoup d'environnement partout sur la Terre. Puis quand on parle d'environnement, c'est pas déconnecté de notre santé comme individu, comme collectivité, c'est pas déconnecté de... C'est connecté à tout, finalement. C'est comme si la façon qu'on a approché cette crise-là, c'était comme si on oubliait un peu notre idéal comme humanité. Puis je pense que je ne vais pas me gêner en disant que l'humanité, on veut que nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants aient une belle vie.
Ouais.
Je pense qu'on veut tous avoir de quoi à manger sur notre assiette qui est bon pour la santé. Je pense qu'on veut avoir un endroit agréable où vivre. On veut le plus de paix possible dans le monde. Maintenant, on se rend compte que, comme humain, on fait plein d'autres choix qui n'amènent pas ça, okay? Comme la consommation, la façon qu'on gère nos conflits, etc. Ça apporte de la mort, ça apporte de la haine, ça apporte de la destruction de nos écosystèmes. On fait plein de choix qui ne sont pas en harmonie.
Il n'y a pas grand monde qui est contre la vertu, mais ce n'est pas tout le monde qui la pratique.
Il y a ça, mais aussi, c'est comme si beaucoup de ce qui a été, de la façon, je ne vais pas juste pointer du doigt notre gouvernement, je dirais peut-être plus les autorités en place, un peu partout dans le monde, c'est comme si les moyens qu'on a pris, on disait, bon, on a une mauvaise passe à passer, ça fait que là, on va utiliser plein de moyens qui vont créer beaucoup de poubelles. La quantité de déchets qui se créent en ce moment dans le milieu hospitalier avec les mesures sanitaires, puis je le sais que les gens font ça pour la protection puis pour le bien-être. Je ne suis pas en train de blâmer puis de vouloir que personne se sente mal. La réalité, c'est que sans que j'aie de données, j'imagine qu'il y a beaucoup plus de déchets qui sont créés en ce moment sur la Terre avec les sacs de plastique, avec tous les équipements de protection. Les mesures aussi de distanciation, d'isolation des personnes âgées, des jeunes qui font pas d'exercice, qui peuvent pas voir leurs amis beaucoup, ça va à l'encontre, finalement, beaucoup de ces choses-là vont à l'encontre de ce qu'on a besoin pour régénérer notre planète.
Tout à fait.
Ça fait que je me demande si, tu sais, peut-être qu'on pourrait essayer, Renaud, de brainstormer, puis peut-être les gens vont pouvoir réfléchir à ça, ceux qui écoutent ça, puis qui vont le partager dans des discussions autour. Parce que c'est ça le but de ces podcasts-là, c'est qu'on soit plusieurs à discuter puis à échanger. On n'a pas de réponse toute faite. Mais au moins, en y réfléchissant, ça devient plus clair en nous ce qu'on veut. Mais qu'est-ce que, dans les prochaines années, quand il va y avoir un autre virus qui va sortir, parce qu'il y en a, le COVID, c'est pas le premier, contrairement à ce qu'on entend parfois, c'est la première fois dans l'humanité qu'une crise telle le COVID existe, arrive. Et c'est pas vrai. Il y a eu plusieurs pandémies dans le passé, puis des types de COVID, celui-ci spécifique, oui, c'est la première fois, mais semblable, il y en a eu d'autres dans l'histoire. Donc, les prochains qui vont se présenter, comment on va les vivre? Comment on va les vivre d'une façon qu'on ne va pas faire un pas en arrière en se disant « Oh, il faut combattre une pandémie, on va revenir à nos idéaux plus tard. » Tu sais.
Ben oui, mais je veux dire, moi, qu'est-ce qui me vient en tête comme, je pourrais dire, qu'est-ce que ça va être la pierre d'assise? Disons, si on pense à une autre pandémie qui pourrait venir. Parce que moi, c'est ça mon impression, en fait, depuis le début, si je parle de mon impression, disons, qui est non pas scientifique, mais qui est vraiment mon feeling. Depuis le début, j'ai eu l'impression que cette pandémie-là, ben, ça allait durer comme au moins un an et demi, peut-être jusqu'à 10 ans, que ça allait peut-être durer vraiment longtemps, mais que c'était pas si pire que ça, en fait. T'sais, justement, que c'était plutôt comme une crise qui révèle des problèmes qui sont sous-jacents puis qui fait comme exploser la patente. Ben, je veux dire, là, je fais un petit peu sur le côté, mais par exemple, on nous dit depuis le début de la crise comment c'est important d'écouter les scientifiques. C'est comme s'il y a une genre de monoculture de la science qui est en train de se développer, on dirait, ou je ne sais pas trop, mais la science, par définition, ce n'est pas supposé être monolithique. Ce n'est pas supposé être tout le monde pense pareil. Ce n'est pas ça, la science. Si quelqu'un a ce discours-là, c'est presque un discours anti-scientifique. Pourtant, là, dans l'imaginaire collectif, on dirait qu'il y a une science, j'aimerais ça savoir c'est qui le patron, d'ailleurs, qui fait l'argent avec ça, parce que la science, c'est pas de la philosophie. La philosophie, on fait pas beaucoup d'argent avec ça aujourd'hui, hein. Mais la science, on en fait pas mal. Il y a des gens que leurs actions, là, ils ont pas mal monté aussi pendant la crise. Donc, ça bénéficie à des gens. On peut pas, de pas regarder qui fait de l'argent avec la crise. Il faut se poser des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des billets? Puis, du point de vue scientifique, on a besoin de transparence. On a besoin d'avoir différents avis contraires, pas juste tout le temps la même pensée qui revient. Donc,
tout à fait. Puis par rapport à ça, récemment, j'ai entendu quelqu'un dire « La science n'est pas une finalité. » Puis ceux qui pensent... j'ai même vu une grande affiche dans les villes qui disait « Science will win. » La science va gagner. Mais va gagner contre qui? Va gagner contre la nature? Va gagner contre les méchants? Tu sais, c'est encore une fois la vision d'un ennemi qui est extérieur à nous.
Ouais.
Puis,
conception de la vérité.
La parole, c'était « La science n'est pas une finalité. La science est un processus.
Mm-hmm. »
Si c'est un processus, la science, il faut être constamment prêt à se remettre en question. Il y a la question éthique que, numéro un, nos fonds publics, à toi, moi et toutes les gens qui écoutent ce podcast, tous les fonds publics, beaucoup d'argent va pour subventionner les recherches en science, dont les recherches sur les vaccins. Et en ce moment, cet argent-là ne revient jamais aux contribuables après. Ça reste ensuite les profits que toutes ces compagnies-là font. Ça reste à ces compagnies, aux gens qui ont des actions. C'est très problématique de côté éthique de penser la concentration d'argent qui est créée sur une question de santé publique, de santé globale. Simplement de dire pour que notre système repose sur un système capitaliste où des gens se font des énormes quantités d'argent. Puis on repose sur ces gens-là, on entend toujours. Tu sais, c'était rendu, j'ai écouté une nouvelle, j'avais l'impression des fois, tu sais, on entendait Justin Trudeau attendre une confirmation de telle compagnie de vaccins ou de telle compagnie. La personne en ce moment qui a le gros bout du bâton, qui tient les rênes, c'est les gens qui contrôlent les compagnies pharmaceutiques. C'est eux autres qui faisaient... En ce moment, c'est eux qui font le beau temps puis la pluie pour les gens qui attendent impatiemment ces vaccins-là.
Exact. Puis c'est l'expression d'une idéologie. C'est pas l'expression de la vérité. Puis c'est ça le problème, c'est qu'on n'a pas accès à une réelle transparence. On a accès à l'information des médias de masse d'un côté, puis à toutes sortes d'informations alternatives d'un autre. Mais on n'a pas de réel débat public ou de débat scientifique, ou très peu. Moi, je recherche l'information venant de la bouche des médecins, par exemple, au Québec, puis on voit pas grand-chose, tu sais. Oui, on a certains médecins, c'est sûr, qui nous parlent à Radio-Canada, dans les médias de masse. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quelque chose qui manque là.
Puis quelque chose qui est passé dans les nouvelles, puis ça l'a fait presque zéro vague. La journée qu'un des vaccins a été approuvé, la même journée, les patrons, les exécutifs qui savaient que le vaccin allait sortir vendaient des actions pour des millions de dollars d'actions cette même journée-là, puis on peut imaginer que, bien sûr, la journée que la compagnie a vendu ses actions, que leurs actions ont monté beaucoup en bourse. Donc, ces gens-là qui sont très bien placés dans cette entreprise-là ont vendu leurs actions à un moment où ils ont fait des profits incroyables. Puis, ils se sont défendus en disant que c'est une coïncidence. Ah oui, c'est une coïncidence. Tu savais que tu développais un vaccin qui sortirait environ à ce moment-là, puis tu avais programmé la vente de tes actions environ à ce moment-là. Il n'y a aucune coïncidence là-dessus. Puis, Tant mieux, puis ces gens-là, vous êtes fait un plein d'argent. Bon, bravo, allez le dépenser, allez le dépenser, acheter des yachts et des grandes maisons, si ça fait votre bonheur. En passant, c'est pas ça qui fait le bonheur des gens, mais ça sera un autre débat. Mais ce que je veux dire, c'est que nous, en tant que personnes qui vont recevoir ces vaccins-là ou pas, selon le choix de chaque personne, on accepte quand même, à chaque vaccin, on est en train de donner, je sais pas c'est quoi le montant par vaccin, mais à chaque vaccin, on est en train de dire à cette compagnie-là, tiens, donnez un plus grand bonus à votre directeur, donnez un plus grand bonus à des personnes qui ont déjà assez d'argent. Puis ça, c'est la question éthique qui est problématique, selon moi. Peut-être je me trompe, Renaud, peut-être je ne lis pas assez les médias, mais je n'ai pas l'impression que c'est très discuté dans les médias.
L'éthique n'est pas vraiment à la mode, si tu veux mon avis.
Merde.
Oui, c'est ça. Mais on est rendu à des débats éthiques sur l'intelligence artificielle ou peut-être est-ce qu'on devrait aller coloniser la planète Mars, mais des questions comme « quelle est la nature humaine? » Ouais, ça a l'air d'être pas mal dépassé. La société que je veux contribuer à bâtir, celle qui va se produire dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, celle qui s'en vient à long terme, qu'est-ce que ça va être? Pour moi, une des pierres d'assises de cette société-là, ben, c'est la transparence dans le sens d'être capable de créer des liens entre nous, d'avoir des liens dans les populations humaines, puis d'être capable d'avoir des débats, d'être capable de parler de nos contradictions, d'être capable de mettre les choses sur la table, si je peux dire. Puis pour moi, justement, on sait qu'une société qui est en santé, c'est une société qui a son tissu social est en santé. Une société qui est, dans un sens, qui est cohérente, qui, dans le sens que elle s'appartient à elle-même, les gens se reconnaissent dans la société. Présentement, j'ai l'impression qu'on est comme dans une forme de société qui est un peu en voie de disparition ou d'éclatement, puis que justement, la transparence ou la liberté de conscience, on dirait que ça devient des choses secondaires, presque non essentielles. Ça, je trouve ça assez incroyable. Il y a quelque chose de beau dans la liberté de conscience. Il y a vraiment quelque chose de beau là, puis qui redonne à l'être humain sa dignité. Si on prend à l'être humain sa dignité, même pour 1 an, pour 2 ans, pour 10 ans, qu'est-ce que ça va donner comme société? Ben, je préfère pas voir ça. Je préfère voir une société dans laquelle on redonne la dignité à tout le monde. Puis la liberté de conscience, c'est un fondamental là-dedans. Peut-être qu'il y a des gens qui trouvent ça plus compliqué de laisser les gens libres. C'est vrai, c'est un grand défi. Mais c'est un défi qu'on peut relever, je le crois. Puis je pense que les jeunes le croient aussi. J'ai espoir en la jeunesse, en fait, qui va voir dans cette crise-là les contradictions de toute la génération des personnes au pouvoir, en fait, la génération qui est mature, qui est en train de gérer la crise. On donne des bons et des mauvais exemples. Puis j'espère que la jeunesse va apprendre de ça, puis ne va pas reproduire les mêmes contradictions.
Puis, comme tu l'as dit, j'ai beaucoup d'espoir dans la jeunesse aussi. Puis, je crois qu'un de nos rôles, nous, comme adultes, peut-être au milieu de leur vie, environ là-dedans, c'est de créer un chemin, c'est d'ouvrir le chemin pour que les enfants, les prochaines générations aussi, puissent développer ce monde-là qu'on commence à voir est nécessaire.
Mm-hmm.
C'est pas facile pour nous de dire du jour au lendemain, on change notre style de vie, on change un peu notre façon de vivre en société, on change notre façon de voyager, de se déplacer, on change notre alimentation. C'est quelque chose qui est difficile.
Mm-hmm.
Il y a une brèche qui s'est ouverte. Je crois qu'il y a une brèche. J'aime mieux voir, tu sais, comme de voir le COVID, la période COVID, comme juste une finalité plate, puis mon Dieu, qu'on va être bien après que ça soit passé. Personnellement, je trouve que c'est plate comme façon de voir ça. Puis à la limite, même pour les gens qui ont perdu un être cher pendant le COVID, je me dis que c'est encore plus plate pour eux. Quand on vit un défi, si on est capable d'y apporter du sens, mm-hmm. c'est là qu'on apprend quelque chose, puis qu'on fait comme, ça a été difficile, on se dit, ça a été difficile, mais j'en suis ressorti. C'est la même chose quand on vit une dépression. C'est la même chose quand on vit une rupture, on en ressort un sens, idéalement mm-hmm. un sens positif, pas un sens genre qu'on se referme, puis qu'on la terre est contre nous, puis on est des victimes, mais on en ressort mm-hmm. avec un sens qui agrandit notre conscience, notre possibilité de donner de l'amour. En ce moment, on est en train de voir que c'est pas tout à fait comme ça qu'on l'a vécu, cette crise-là, t'sais. Mais au moins, on le voit. Plusieurs personnes le voient. Je crois que c'est en train d'ouvrir un chemin pour les prochaines générations. Puis c'est ça qui m'apporte beaucoup, beaucoup d'espoir. C'est que je me dis, puis je t'ai entendu dire quelques fois dans ce que tu disais que tu sens qu'il y a quelque chose qui est en mouvement, qui n'est pas arrêtable. Mm-hmm. Moi aussi, je sens ça. Puis, tu sais, c'est pas pour rien que je voulais te parler à toi, Renaud, c'est à cause que je sens que t'es une des personnes qui est très active dans ce que tu fais, puis surtout dans ce que tu es, pour ouvrir ces chemins-là. T'sais. Tu dis que tu travailles avec les enfants, tu travaillais plus avec les enfants, là, tu travailles moins avec les enfants en ce moment, mais quand même, j'ai l'impression que ce que tu fais dans ta vie, comme thérapeute, massothérapeute, comme membre de ta communauté, tu es impliqué dans ton quartier à Montréal.
Ouais.
Tu es impliqué dans la justice sociale. Que les personnes que tu rencontres, tu les touches, puis que tu apportes vraiment, tu crées un sillon là où tu passes, qui aspire les gens vers quelque chose de mieux. Je crois que tu l'as aussi fait beaucoup pendant la COVID. Tu as aidé des personnes qui étaient en grande détresse psychologique puis mm-hmm. qui n'avaient pas trouvé nécessairement d'aide dans le système de soins de santé ou auprès des organismes communautaires. Toi, tu as pu les aider. Ça fait que c'est ça qui m'inspire de toi. Puis aussi ton lien à l'alimentation. Je sais que tu es toujours quelqu'un qui a jardiné. Malgré que tu es ultra occupé, tu as toujours trouvé le temps de jardiner puis d'impliquer des gens dans le jardinage, puis de faire circuler la nourriture autour de toi.
Mm-hmm. C'est clair. Je veux dire, moi, j'ai appris par l'exemple, par mes parents, comme une logique d'amour, puis de respect, puis de chercher à comprendre l'autre, chercher à pas juger, puis toujours pardonner. Toujours donner une chance, toujours recréer des liens. Fait que c'est ça que j'ai appris. C'est sûr, j'ai été puni aussi. On m'a mis dans ma chambre parce que j'avais fait des choses pas correctes. C'est sûr. Mais j'ai grandi dans l'amour, j'ai grandi dans la confiance, puis j'ai confiance dans les êtres humains. Puis, en même temps, ben, j'aide les gens à avoir plus confiance en eux-mêmes, justement. Puis, je veux dire, moi-même, je pars de loin. Là, j'étais un petit peu heureux à quelque part. Là, un petit garçon peu heureux à quelque part en dedans. Puis, ça m'a pris du temps avant de vraiment d'avoir plus confiance en moi puis dans mes idées, dans ce que je crois. Hein, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, ta. Et le plus important, c'est pas qu'est-ce qui est vrai. Pendant longtemps, j'ai l'impression que c'est peut-être s'il y a un mal, si je peux dire, un problème, un grand mal émotionnel, un grand mal au niveau mental dans toute la culture, la civilisation blanche, c'est la relation avec la vérité. La relation, on veut tellement accéder à qu'est-ce qui est vrai, puis en même temps, c'est comme s'il y a une peur sous-jacente à ça. Là, si on n'est pas dans la vérité, on va être jugé ou tu sais, on va peut-être perdre tout ce qu'on a. Je ne sais pas, il y a comme quelque chose de... Ça date de loin, puis c'est relié à la religion, à nos croyances. C'est comme si d'un côté, c'est une chose positive. De rechercher la vérité, c'est pas un problème en soi. C'est une belle chose. Mais je pense qu'en général, on n'a pas un rapport sain avec la vérité. Puis moi-même, je me regarde moi-même, parce que la meilleure chose que je peux faire, c'est pas tellement de juger les autres, j'ai l'impression, c'est de me juger moi-même, à la limite, ou me regarder sans me juger. Mais oui, puis en fait, moi, j'ai vécu ça en relation amoureuse, en fait. À un certain moment, là, je veux dire, je pense que j'ai jamais autant appris dans la vie que dans les relations amoureuses dans lesquelles j'ai été. Hein, parce que c'est là qu'on aime tellement une personne, puis que quand on a des conflits ou des oppositions, ça nous amène à plus loin, hein, ça nous amène à creuser. Puis en relation amoureuse, dans des conflits d'idéologie ou culturelle, j'en suis venu à comprendre que vraiment, le plus important, c'est pas qui a raison. C'est pas qui a raison. Puis oui, c'est important, c'est intéressant de rechercher la vérité, mais je pense que en tout temps, ça devrait être la qualité de nos relations humaines puis de l'harmonie du tissu social qui devrait être regardée pour voir comment avancer ensemble, finalement.
Que finalement, la vérité, ça soit comme un peu, on disait pour la science tantôt, que finalement, la vérité, c'est un processus. Puis c'est la qualité de ce processus social-là. Plus que la quantité, c'est pas la quantité de relations qu'on a, mais c'est vraiment la qualité de nos relations, finalement, qui peut être une vérité, parce que c'est le fun quand notre vérité, c'est pas une vérité qui est fixe, qui est coulée dans le béton, mais c'est une vérité qui est souple, qui s'adapte. Le lien qu'on préfère avec ça, c'est qu'on va dire qu'on dit que la nature, c'est la vérité. Mais la nature s'adapte. La nature, il y a des arbres qui poussent à 150 ans, puis il y en a d'autres qui meurent à leur première année. Il n'y a pas une vérité à la nature. Il y a simplement plusieurs expériences différentes. Si la vérité, ça pouvait être simplement d'accepter on ne sait pas la vérité.
Je suis un peu d'accord avec toi. Dans le fond, moi, je résumerais ça pour moi-même avec... La vérité, c'est comme une création qui est en constant changement. C'est comme un organisme vivant qui évolue et change toujours. La vérité est toujours en mouvement. Elle n'est pas fixe. Elle ne peut pas parce que, à quelque part, je ne sais pas si la vérité nous précède ou si elle nous suit, mais elle est en constant changement. Elle est en constant changement, puis si on a une idée fixe de la vérité, on se trompe probablement.
Franchement, chers amis, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est parce Covid maintenant qui va nous faire flipper. Chers amis, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est parce Covid maintenant qui va nous faire flipper. Traverse tes peurs, ouvre ton cœur, vois la beauté des fleurs. C'est juste l'ancien monde qui se meurt. Traverse tes peurs, ouvre grand ton cœur, sans le parfum des fleurs. C'est juste en toi l'ancien monde qui se meurt. Abre tu corona, ouvre ta couronne, ta corona, grandis tous, sans exception, toutes tous, couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ouvre ta couronne, ta corona, grandis tous, sans exception, toutes tous, couronnés d'étoiles. Ouais, on nous mijote la 5G, en même temps on est déjà en train de s'infuser gentiment avec la santé. Balance, balance les ondes, on est bien enraciné depuis le cœur de la terre mère jusqu'au confins de la Voie lactée. Balance, balance les ondes, on est bien enraciné depuis le cœur de terre ciel où nous sourit le cinquième soleil. C'est moi, toi, nous, les ondes aussi, les ondes, les âmes libres, libres d'être, d'aimer, de servir le vivant, de vivre si tu doutes, demande. Guide ton cœur, recueille-toi à la source, en ton temple intérieur. Qui es-tu? En quoi tu crois? Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crées dans ton présent pour la terre de nos enfants? Sens en toi s'ouvrir cet âge d'or. Si tu veux bien transformer ton propre plomb en or, le soleil brille en toi. Au temps béni, tant attendu de la danse de l'aigle et du condor. Sens en toi s'ouvrir cet âge d'or.
Quelquefois, par rapport, d'aller faire du massage dans des spectacles de musique où c'était surtout, je crois, des personnes avec la peau noire, que ce soit des gens qui sont nés au Québec, des gens qui sont d'origine africaine, haïtienne, etc. Mais tu allais spécialement dans des endroits où tu savais qu'il y aurait des personnes que tu n'as pas la chance de rencontrer puis de masser pour leur offrir du massage. Ça, j'ai trouvé que c'était un geste délibéré vers la rencontre. Vraiment formidable. Je voudrais l'entendre parler.
Mm-hmm. Ben, dans le fond, j'imagine que ce que tu exprimes, c'est deux choses. Pour moi, d'un côté, c'est qu'effectivement, premièrement, mon amoureuse avec qui je suis depuis presque 4 ans, ben, c'est une femme américaine, coréenne. Puis donc, on a eu beaucoup de discussions justement ensemble à propos du racisme, mais aussi à propos simplement des, justement, des microagressions, puis des, peut-être des différences de culture en même temps. Puis dans ma réflexion personnelle, ça m'a amené à avoir l'intention de créer plus de liens, puis de, ça m'a fait prendre conscience, en fait, de justement de comment je me comportais avec une certaine réserve, dans le fond. C'est que, dans le fond, j'avais envie, j'ai toujours été ouvert, puis j'ai toujours eu envie de rencontrer des gens différents de moi, mais j'avais plus de réserve, j'avais une sorte de réserve, j'imagine, à aller peut-être vers des personnes de couleur. Puis justement, pourquoi, dans le fond, c'est pas quelque chose, c'était pas vraiment quelque chose de conscient, mais c'était plutôt quelque chose d'appris. T'sais, un peu comme dès qu'on est jeune au Québec, on se fait dire, ah ben, quand on se promène avec sa mère dans l'autobus, par exemple, on se fait dire, ah, mais les gens que tu connais pas, regarde-les pas trop. C'est comme si c'est pas poli de trop regarder les gens qu'on connaît pas. Il y a une sorte de sens de la politesse qui est peut-être une vérité là-dedans, en tout cas de faire attention à pas trop à pas trop être envahissant avec les autres. Puis d'un autre côté, on dirait qu'il y a une, justement, il y a une peut-être un manque de confiance, un manque d'assurance, et sûrement de l'ignorance qui fait que on se regroupe plus avec des gens qui nous ressemblent. Pourtant, moi, je veux dire, je suis à l'école primaire, tous mes amis, pas tous mes amis, mais je veux dire, j'ai beaucoup d'amis de couleur, là. C'est comme je suis dans un quartier Saint-Michel très multiethnique à Montréal. Mais effectivement, c'est comme au fur et à mesure de ma vie, c'est comme si mes amis, finalement, c'était plus des personnes blanches. Puis c'est ça, t'sais, c'est pas mauvais de, t'sais, quand on partage une langue. Quand on partage une culture, c'est bien de se rassembler ensemble. Mais pourquoi cette gêne? Pourquoi est-ce qu'on valorise pas plus la rencontre de la différence? Ça, c'est une bonne question. Il faudrait adresser notre subconscient, j'imagine, non?
Parle-nous juste concrètement un peu de cette expérience-là quand tu allais faire du massage.
J'avais envie, ça faisait depuis 10 ans que je faisais du massage, puis j'étais en train de me rapprocher de mon idéal, si je peux dire, là. J'étais comme rendu à un moment de perfectionnement à ce niveau-là. J'ai eu envie d'explorer le massage avec la musique. J'avais l'intention de faire du massage. J'ai créé une technique que j'appelle le massage du son pour faire du massage dans les festivals, entre autres. C'est ça que je voulais faire avant la COVID. J'ai commencé à expérimenter à faire le massage dans les bars, en soirée, à Montréal. Wow! Et je l'ai fait juste à temps. À l'automne avant la COVID, justement, un des qui m'a le plus inspiré, que j'ai eu envie de faire du massage sur leur musique, parce que j'apprécie, j'adore leur vibration, mais c'est avec Calmunity. Donc, j'imagine que je t'avais parlé sûrement de Calmunity Collective, qui est dans le fond, que là, c'est plus difficile de les voir présentement, parce que depuis la COVID, on sait c'est quoi, tout est fermé. Mais c'est un groupe d'improvisation jazz qui a, je pense, qui a plus que 20 ans d'expérience maintenant comme communauté à Montréal.
Érudit avec du poil, puis bien on était là comme Nutella sur tête au chaque matin. Jason Sitton se lève et tanné de la musique pop, a formé un collectif qui fait de la musique propre. Jason Sitton lève et tanné de la musique pop, et ben comme il était partout, ouvre les portes. Quand tu viens nous voir au beau bar les mardis soirs, tu te rends compte que tu fais face à de la musique rap. La musique qui rentre dans ton tympan, nous voilà au printemps. X1, Summer End, June, yes. Let it be known, let it be known, yeah.
My words are like birds and they fly away.
In the sky like birds.
And they make you wait. I try to live honestly, I say truthfully. Believe me, oh believe me. I said believe me.
MC, 10-year anniversary. On a Jeff, Amel, Sony, sur la guitare, X-Wam, do your thing. Live improv.
Yep.
Donc, c'était la prestation live de Community. Est-ce que ça se poursuit?
Un des rendez-vous culturels à Montréal, si on voulait connecter avec la vibe jazz, la vibe afro, puis vraiment dans une énergie extraordinaire. Là. C'est une énergie d'improvisation de qualité.
Mm-hmm.
Donc, j'ai eu la... Puis c'est ça, puis c'est comme un... Autrement dit, c'est comme si c'est venu de mon intention, premièrement, de me rapprocher aussi de différents milieux. C'est arrivé un peu comme ça. C'est juste que j'ai ouvert mon cœur, je me suis ouvert. Je me suis dit, mais est-ce que ça vous tenterait que je vienne offrir du massage gratuit durant vos spectacles de musique live? Puis c'est parti. J'ai commencé à amener ma chaise à massage. Simplement par rapport à cette expérience-là que j'ai vécue dans les bars. Mais dans le fond, j'offrais les massages à contribution volontaire parce que j'étais dans un mode d'exploration. Donc, je ne faisais pas vraiment de vente de services, mais vraiment sur la base des donations. Puis, j'offrais les massages gratuits aux musiciens, aux musiciennes ou aux artistes qui étaient sur la scène.
Bon. Et puis, il y a une chose qui me percute puis je veux vraiment qu'on le souligne, c'est que toi, tu as pris conscience que tu voulais... Tu sais, je pense, comme on pourrait dire une grande majorité de Québécois, on veut... se rapprocher des personnes de couleur. On veut, tu sais, on sait qu'il y a quelque chose autour du racisme systémique, moi j'appelle plus ça du racisme inconscient, qui existe. On ne sait pas comment s'y prendre. Puis il y a une clé que tu as dit, là, Renaud, qu'il faut qu'on nomme, c'est que tu l'as réalisé, mais ça t'a pris un petit effort. Ça t'a pris, il a fallu que tu dises, je veux faire quelque chose, puis je vais faire quelque chose, pour que finalement, l'action se passe, que ça reste pas au niveau des idées ou même au niveau du ressenti. Alors toi, tu t'es dit, ouais, qu'est-ce que je pourrais faire? Tu as pris le fait que tu explorais une nouvelle forme de massage avec la musique. OK, je vais essayer quelque chose avec ça. Puis c'est ce moment-là où tu as comme fait, j'essaye, je plonge. Ça, c'est, je pense, le moment qui c'est là que la magie, elle est. C'est là qu'on peut dire, OK, un pas de plus dans ce vivre, dans ce vrai vivre ensemble, dans cette unité de laquelle on parle. Dans cette unité dans laquelle Martin Luther King, il l'appelait la communauté bien-aimée. Je pense que quand tu as fait ce pas-là vers « je vais offrir du massage dans ces spectacles-là », où ça pouvait être inconfortable peut-être parce que tu étais finalement un des seuls blancs, mais là, tu faisais ce pas-là qu'on a besoin de faire. Puis je pense que chaque personne va trouver sa façon de faire. T'sais. Ça sera certainement pas tout comme toi. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui vivent les mêmes choses que toi sur la Terre. Mais chacun, la personne qui travaille au gouvernement va trouver sa manière de le faire. L'autre personne travaille dans une épicerie. L'autre qui est un avocat. Je crois qu'on a toutes des opportunités dans nos vies où on peut dire, je vais juste faire un petit peu plus pour voir ce que ça fait, pour voir faire une expérience dans la bienveillance. Puis c'est ça que j'aime dans cette expérience-là que tu m'avais raconté, c'est que j'avais senti qu'il y avait quelque chose de très intentionnel dans ce que tu faisais. Intentionnel dans la bienveillance puis dans agrandir le cercle.
C'est clair. Puis, tu sais, pour moi, des fois, on a tendance justement à catégoriser les gens, à leur donner des étiquettes, à les juger, à dire « Ah, toi, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comment toi? Toi, t'es comment? » Puis, par exemple, on va dire des étiquettes comme « Ah, une personne est idéaliste ou une personne est pragmatique. » Non? Une personne, elle rêve ou elle pèle des nuages? Non, ça, c'est la même chose. Ah. Donc, moi, à un moment donné, je me suis rendu compte qu'en fait, je me définirais comme un idéaliste pragmatique. Je fais tout ce que je peux pour me rapprocher de mon idéal, puis je considère mon idéal humain comme quelque chose qui puisse s'atteindre. Puis donc, c'est sûr que, disons que peut-être qu'il y a une partie de l'idéal que je laisse plus loin, qu'on pourrait dire comme l'idéal idéal dans son absolu. Mais pour moi, dans ma vie, je compte réaliser mon idéal. Ce qu'il y a comme barrière entre mon idéal et moi-même, ben, je travaille à ouvrir ces portes-là. Ça, c'est clair. Ça m'énergise donner du massage, puis spécialement avec le massage du son maintenant, parce que justement je me permets de danser dans mes massages. Dans ces massages-là, j'ai même commencé à faire du massage sur la musique rap, hip-hop ou d'autres styles de musique, musique électronique, musique jazz. Puis justement, ben ça permet à la fois ma créativité de s'exprimer dans un massage, mais aussi, littéralement, ça me permet de bouger, de danser de manière différente. Puis à la fin de la journée, ben, je me sens mieux dans mon corps.
Wow! Je voudrais que tu prennes peut-être juste quelques secondes pour nous parler de ce que tu offres comme travail.
Mm-hmm.
Qu'est-ce que c'est, comment que toi, dans la vie, tu offres finalement ce dans quoi tu es le meilleur? Puis en passant, j'espère que tout le monde qui nous écoute, c'est ça que vous dites quand vous vous posez la question sur c'est quoi votre travail. J'aimerais que tu aies un autre exemple de ça, Renaud. Tu es un exemple de quelqu'un qui a créé ton propre emploi, qui crée tes journées avec ce dans quoi tu te sens le plus à l'aise puis le meilleur, puis tu réussis à en vivre. Je souhaite ça à tout le monde sur la Terre. Je crois déjà que ça aiderait beaucoup si tout le monde faisait quelque chose dans quoi il était vraiment valorisé puis qui donnait le meilleur d'eux-mêmes. Alors toi, c'est quoi le meilleur de toi-même que tu offres aux gens?
Aïe, aïe, aïe. J'ai l'impression que le meilleur de moi-même, présentement, c'est peut-être un service comme d'accompagnement avec le massage néo-reikien, processus psychocorporel. Dans un sens, c'est ce qui m'a permis à moi-même de tellement changer, parce que quand on apprend à devenir thérapeute, un peu comme les psychanalystes, pour devenir psychanalyste, doivent faire une psychanalyse, doivent recevoir les traitements qu'eux-mêmes vont donner aux autres. En thérapie, c'est la même chose. En massothérapie, c'est la même chose. Donc, moi-même, grâce au massage néo-reikien, j'ai retrouvé la mémoire, en fait. Je peux dire ça littéralement. Je me rappelais pas de ma vie comme avant 14 ans, disons. T'sais. Quand j'ai appris à faire le massage, là, à 25, 26 ans, je me suis découvert toute une dimension de moi-même, la dimension émotionnelle, justement. Puis, c'est à ça que j'aide les gens, c'est de créer des ponts entre le conscient et l'inconscient. Créer des ponts entre la partie qu'on connaît de soi-même ou qu'on pense connaître et la partie qui est inconnue, la partie qu'on laisse de côté. Puis mon travail, c'est littéralement avec mes mains en tant que massothérapeute, mais c'est aussi, je fais de l'accompagnement verbal. Puis dans le massage néo-reikien, c'est ça qui fait que c'est assez unique en fait, c'est que c'est un accompagnement verbal qui est simultané au toucher thérapeutique, qui est très, très, très accueillant, enveloppant, qui aide à relâcher le système nerveux, mais à garder le mental présent, à développer la conscience de soi-même, puis de tout ce qui est là à l'intérieur de soi-même, tout ce qui bouge. Donc, pour plus d'informations, les gens peuvent aller regarder sur mon site web, dans le fond, massage néo-reikien sur nrmassage.ca.
Ça fait que c'est nrmassage.ca, c'est ça?
Exactement, nr pour néo-reikien.
Néo-reikien, nrmassage.ca, les gens peuvent... Ouais.
Peut-être je peux dire simplement qu'en fait, parce qu'en massothérapie, on connaît plus le reiki. Le néo-reikien, ça n'a pas de lien vraiment avec le reiki. Le reiki, c'est vraiment un travail énergétique qui est même une pratique spirituelle, en fait. Le massage néo-reikien provient de la psychanalyse et de l'influence de Wilhelm Reich.
OK.
Donc, simplement pour la, replacer les choses dans leur contexte.
Vous habitez à Montréal, si vous êtes en de passage à Montréal, je vous invite vraiment à contacter Renaud pour un rendez-vous. Ça peut. Les gens, est-ce qu'ils pourraient venir pour un massage comme une fois pour voir comment ils aiment ça? Ce n'est pas nécessairement des suivis de longue
durée. Non, c'est sûr. Puis je fais toutes sortes de massages, mais mon nouveau dada, là, j'en ai pas beaucoup parlé, mais je n'ai parlé tantôt, c'est le massage du son. Je fais bouger, je fais danser les gens. Ça c'est vraiment mon nouveau dada. Mm-hmm. Et dans le fond, le massage nuraïkien, c'est ma spécialisation depuis, ça fait plus que 10 ans maintenant que je pratique ça. Ça, c'est vraiment pour les gens qui, à quelque part, qui cherchent à reconnecter avec l'intérieur, avec tout ce qui est là, puis à s'accepter. Disons que le massage du son, c'est plus un massage de fête pour s'amuser.
Super, wow, c'est une belle offre. Merci Renaud de t'être joint au podcast Culture d'Empathie, de faire partie de la communauté Culture d'Empathie.
Merci, merci, c'est un honneur, puis vraiment continue ton travail. On a besoin de modèles d'empathie au Québec, puis on a besoin que tout le monde fasse sa part dans un sens, que ça vienne du plus grand nombre.
Merci d'avoir été là pour ce podcast. N'oubliez pas de vous abonner à mon blog culturedempathie.org. Vous allez recevoir les messages quand je fais un nouveau podcast et vous allez aussi voir si des choses sont publiées sur cette page. Vous pouvez aussi directement vous abonner au podcast qui est sur podomatic.com. Vous pouvez m'écrire un courriel à culturedempathie@gmail.com. Culture d'empathie tout ensemble @gmail.com. Merci et à bientôt.
Franchement, chers âmes, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est pas ce Covid maintenant qui va nous faire flipper. Chers âmes, on a déjà tellement traversé depuis des siècles. C'est pas ce Covid maintenant qui va nous faire flipper. Traverse tes peurs, ouvre ton cœur, vois la beauté des fleurs. C'est juste l'ancien monde qui se meurt. Traverse tes peurs, ouvre grand ton cœur, sans le parfum des fleurs. C'est juste en toi l'ancien monde qui se meurt. Abre tu corona, ouvre ta couronne, ta corona. Qu'on est tous, sans exception, tout tous couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ouvre ta couronne, ta corona. Qu'on est tous, sans exception, tout tous couronnés d'étoiles. Ouais, ouais, on nous mijote la 5G. En même temps, on est déjà en train de s'infuser gentiment avec la 5D. Balance, balance les ondes, on est bien enraciné depuis le cœur de la terre mère. Moi, toi, nous, les ondes aussi, les ondes, les âmes libres, libres d'être, d'aimer, de servir le vivant, de vivre si tu doutes. Demande que te guide ton cœur, recueille-toi à la source, en ton temple intérieur. Qui es-tu? En quoi tu crois? Qu'est-ce que tu sers? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu crées dans ton présent pour la terre de nos enfants? Sans en toi s'ouvrir cette tâche d'art. L'arc-en-ciel qui invite tous les peuples de la terre à briller sous le même soleil. Toutes les couleurs de nos nations entre terre et ciel forment un pont du même grand cœur. Central s'expansent nos rayons, l'Amérique, l'Asie, l'Europe, toutes les îles et l'Afrique. Gardien de la terre, gardien de l'air, gardien du feu, gardien de l'eau. Fortes les graines que nous sommes, qui poussent avec courage depuis des sagesses sans âge. Fortes avec un grand F pour le feu de l'esprit, un grand eau pour l'eau de vie, un grand air libre comme l'air, un grand T pour la terre et son abondance, un grand E pour les terres et son invisible danse, un grand S pour la sagesse, le serpent cosmique, le serpent à plume de la connaissance, la source intergalactique. Porte avec un grand S pour le feu de l'esprit, un grand eau pour l'eau de vie, un grand air libre comme l'air, un grand T pour à plume de la connaissance, la source intergalactique. Abre tu corona, ta couronne, ta corona. Qu'on est tous, sans exception, tout tous couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ta couronne, ta corona. Qu'on est tous, sans exception, tout tous couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ta couronne, ta corona. Qu'on est tous, sans exception, tout tous couronnés d'étoiles. Abre tu corona, ta couronne, ta corona. Sans exception, tous couronnés d'étoiles.
nations toutes douces couronnées d'étoiles. Allez, tout corona, ouvre ta couronne, ta corona, qu'on est tous, sans exception, toutes douces.